loupé. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer comme si de rien n'était. À quelque chose près, c'était la même intro que la semaine dernière, avec le petit fond musical que je mettais, d'ailleurs que je vais remettre. Voilà. Alors, peut-être pour les prochaines émissions, j'opterai pour un son différent en app derrière, comme ça, parce que là, c'est vrai que j'en discutais avec des amis, ça fait un peu grand bleu derrière. Mais pour l'instant, c'est pas possible, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Alors, la semaine dernière, on a évoqué les médias, mais avant tout ça, je voudrais resituer deux, trois petites choses. Il faut rappeler qu'on a une autre boîte mail qui s'appelle lesyeuxgrandsouverts@laposte.net, si vous voulez nous envoyer des mails pour faire parvenir des idées, des inspirations ou je ne sais quoi d'autre. Concernant ce que vous voulez d'ailleurs. Là on doit mieux m'entendre, non? Parce que tout à l'heure on devait pas m'entendre super bien. Donc vous pouvez faire circuler des idées à ce sujet, n'importe quoi, ce qui vous intéresse, si vous avez des idées pour des musiques, pour des thèmes d'émissions, ou même peut-être des petits scoops qui pourraient m'intéresser concernant par exemple le sujet que je traite en ce moment, les médias. Donc on a cette boîte mail qui s'appelle lesyeuxgrandsouverts@laposte.net. C'est pas cool le mec qui a coupé le micro technique tout à l'heure là, parce que du coup j'étais un peu surpris. Il y a également une page Facebook, Les Yeux Grands Ouverts aussi. Donc c'est Les Yeux Grands Ouverts, c'est vous mettez un S de partout, vous mettez tout au pluriel. Les yeux avec un X, grands ouverts, etc. Voilà. Et puis que dire de plus? Eh ben que nous allons continuer sur cette émission qui parlait des médias, débriefer un peu ce qui se passait. Alors la semaine dernière, on a évoqué un peu grosso modo comment étaient financés les médias. On a parlé des médias de service public, des médias associatifs comme Radio Canu. On a parlé également des médias commerciaux, ce qui sont appelés les radios commerciales, généralistes en l'occurrence, puisqu'on a parlé de Europe 1 et on a légèrement évoqué le cas de RTL sans trop rentrer dans les détails. C'était pour resituer un peu. Alors nous allons un peu resituer tout ça quand même. Le service public, c'est-à-dire Radio France, est financé par la redevance, donc ce qu'on paye tous dans notre taxe d'habitation respective. Les médias associatifs, comme ici Radio Canu, sont financés par une subvention qui s'appelle le FSER, à condition de ne pas avoir plus de 20% du chiffre d'affaires de la radio qui est obtenu par des recettes publicitaires. Les médias privés commerciaux, donc en l'occurrence celui dont on parlait la semaine dernière, c'était Europe 1, c'est vraiment celui-là qu'on a mis en avance, parce que c'est l'exemple un peu le plus opaque, on va dire, au niveau des financements, parce qu'il y a vraiment des financements qui viennent de partout, et puis le groupe Lagardère est bien large. Eux, ils se financent comme ils le veulent d'ailleurs, les médias privés commerciaux, et ils font exactement ce qu'ils veulent. On va relancer la musique. Ils se financent la plupart du temps par la publicité qui diffuse sur l'antenne, mais aussi par le biais des groupes qui les possèdent, hein, comme le groupe Lagardère pour Europe 1. Voilà, c'est le groupe Lagardère Interactive exactement qui possède Europe 1. Et ce groupe même est possédé, lui, en grande partie par ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire en gros des fonds de pension, c'est les banques, fonds d'investissement, les assurances. En gros, il y a une bonne partie du capital de Lagardère Interactive, si ce n'est 100%, parce qu'il y a très peu d'actionnaires individuels, qui est possédé par le monde de la finance, cher à notre super président. Alors, la semaine dernière, je vous ai passé des petits documents audio qui visaient à expliquer l'attitude de certains éditorialistes, notamment les plus connus, El Kabash et Duhamel, éditorialistes et intervieweurs de présidents de la République depuis plus de 40 ans, qui sont encore dans les médias d'ailleurs aujourd'hui. Ils sont un peu plus rares parce qu'il y a beaucoup plus de chaînes, alors on a tendance à un peu moins les voir, mais ils sont encore là. C'est d'ailleurs le fait qu'on les voit encore après 40 ou 50 ans même, parce que je pense que pour eux c'est plus 50 ans de passage dans les grands médias. C'est vraiment une preuve de pluralité. En plus, je vous avais passé la semaine dernière un petit document où on entendait notre ami El Kabash qui léchait les fesses de son patron de manière magnifique chez Drucker sur France 2, sachant que El Kabash est en même temps administrateur du groupe Lagardère, c'est-à-dire qu'en gros il a des parts dans le groupe financier de Lagardère qui possède Europe 1. Et on avait aussi le cas de monsieur Alain Duhamel qui était, lui, chez Laurent Ruquier sur la 2, un petit extrait où il vantait le système médiatique moderne en disant que grâce à la concurrence, c'était garant de liberté de la presse, puisque plus ne pouvait soi-disant rien, plus ne pouvait être dissimulé, puisqu'il y avait énormément de chaînes. En même temps, il eût été étonnant que ce brave monsieur ait raconté autre chose, puisque lui, il vend ses éditoriaux à environ, il y a pas moins de 12 presses différentes, qu'elles soient écrites ou audiovisuelles d'ailleurs. Bon, forcément, il risque pas de cracher sur le milieu médiatique et la concurrence prétendue exceptionnelle, puisque lui touche un peu des sous de tout le monde dans l'histoire. Il vend des éditoriaux aux journaux du Sud, dans les journaux écrits du Sud. Je me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'il y a. Il y a le Midi Libre, plein de petits trucs comme ça. Aussi, il a fait pendant une période sur Canal+, un peu sur France 2. Donc, il ne va pas mordre la main du milieu qui le nourrit, c'est sûr. Alors on va continuer à désinguer un peu des personnalités emblématiques, si on peut l'exprimer comme ça, de l'audiovisuel moderne. Là aujourd'hui on va s'attaquer à un journaliste, enfin on va s'attaquer façon de parler, on va mettre en avant la posture d'un journaliste qui lui est issu de ce qu'on pourrait appeler l'école TF1, un journaliste formé par cette chaîne et aussi formé par LCI. Qui d'ailleurs, ce journaliste va maintenant déjeuner au dîner du siècle, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si vous connaissez. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, sur internet il vous suffit de regarder dîner du siècle, vous tapez ça sur n'importe quel moteur de recherche d'ailleurs, vous allez tomber sur des trucs assez édifiants. Je vais vous expliquer quand même grosso modo ce que c'est. C'est un dîner mensuel, en fait il me semble que c'est tous les derniers mercredis du mois, ou alors l'avant-dernier en fonction de certaines périodes, où se retrouvent toutes les grandes personnalités du journalisme, presse audiovisuelle et presse écrite, hein, peu importe, même presse radio, et en même temps les plus importants hommes politiques français, modernes on pourrait dire, enfin ceux qui sont encore en activité. Certains pourraient me dire, non mais attends Coco, ils font bien ce qu'ils veulent hein, ces gens. Alors je serais tenté de dire oui, pourquoi pas, après tout, on mange avec qui on veut, on fait ce qu'on veut, etc. Mais alors là, quand c'est carrément des dîners qui sont organisés pour que ces personnes-là se réunissent toutes ensemble et au même moment, au même endroit, pour parler de certainement plein de choses, mais on ne sait pas exactement ce qui s'y dit. Alors je veux bien, mais alors qu'on vienne pas nous brandir l'étendard de la presse qui est prétendue super libre et indépendante du pouvoir politique, alors que ces derniers dînent tous ensemble tous les derniers mercredis du mois. Alors pour ceux qui veulent vraiment voir un peu plus ce qui se passe dans ces moments-là, donc je sais que dans le documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde, ce dîner est un petit peu évoqué au début. D'ailleurs on voit la caméra est plantée devant l'entrée je me rappelle plus où est-ce que se déroule ce machin. Il me semble que c'est un ancien musée d'auto. Un truc de l'automobile, je sais plus exactement. Bref, la caméra du documentaire est posée devant l'entrée et il filme toutes les personnes qui rentrent dedans en les étiquetant de toutes les étiquettes, je vais me répéter un peu, désolé, mais que ces personnalités occupent aujourd'hui dans toutes les radios où ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils font à côté de ça et tout ça. Donc c'est assez marquant puisqu'on voit bien toutes les personnes importantes de l'audiovisuel moderne qui rentrent dans ce dîner. Je sais qu'il est aussi évoqué dans le dernier film où Pierre Carl est acteur entre guillemets de son film, puisqu'il fait aussi des petits films qu'il réalise mais où on le voit pas à l'écran, et là il y est, il essaye même d'aller les coincer au dîner du siècle mais il se trompe d'une semaine, donc du coup il s'occupe de David Pujatas. Mais après dans les bonus qui sont sortis derrière, vous pouvez aussi en trouver sur internet, où en fait ils essayent de coincer toutes les personnes de l'audiovisuel public qui vont au dîner du siècle, enfin les coincer gentiment hein, si je puis m'exprimer ainsi, de les emmerder un peu en les montrant du doigt, en leur disant hey, vous allez manger au dîner du siècle, etc. Donc c'est dans Fin de Concession, qui est sorti en 2010 d'ailleurs, que ça s'est mis en avant. Alors on pourrait aussi me dire, donc j'en ai fini un peu pour expliquer ce qu'est le dîner du siècle, on pourrait me dire aussi dîner ensemble ne veut pas dire perdre son indépendance. Alors ça c'est un point de vue, mais certains peuvent peut-être le défendre, mais en tout cas ce sera pas le mien. Une personne qui passe le plus clair de son temps avec des personnages politiques est, dans le cas où ce sera nécessaire, de moins en moins apte à poser des questions importantes et surtout des questions pertinentes ou impertinentes selon le point de vue duquel on veut se placer. Car comme n'importe quel être humain, un lien affectif peut se mettre en place, et un lien de classe aussi va se mettre en place, qui peut empêcher la clairvoyance face à son interlocuteur, que ce soit par corporatisme ou par solidarité de classe également. Seriez-vous plus pertinent, je vous demande de vous mettre dans la peau d'un journaliste qui par exemple va interroger n'importe quel homme politique, seriez-vous plus pertinent et perspicace si vous demandez des comptes sur une fonction remplie ou non, si vous interviewez un ami ou un inconnu? Êtes-vous plus susceptible de déstabiliser un homme que vous côtoyez et qui de plus partage des intérêts communs avec vous, ou un homme à qui vous ne devez rien du tout et que vous connaissez très très peu? Moi, franchement, je pense que c'est clair que si jamais on interviewe une personne qu'on connaît, qu'on côtoie, on n'a pas envie de lui mettre des bâtons dans les roues. Ou alors, on va faire semblant de le mettre un peu en ballotage pour que ça paraisse, que ça passe pour quelque chose de démocratique et un débat d'idées, alors que ce sera pas forcément le cas. Alors voilà. J'en reviens à mon mouton, donc, et on va parler plus de David Pujadas. Quand je dis j'en reviens à mon mouton, ça me rappelle une petite phrase que disait Jean-Luc Mélenchon, ceux qui feront les moutons seront tondus. J'aime bien cette phrase. Alors nous parlions de David Pujadas, journaliste politique est le plus en vue du PAF en ce moment, enfin le plus en vue façon de parler, mais on le voit énormément. Il présente le 20h sur France 2. En tout cas, oui, quand je dis que c'est le plus en vogue, c'est vraiment en parlant de journaliste politique, parce qu'il y a des journalistes qu'on voit très peu à l'écran, mais lui, il occupe vraiment une place importante. Donc il a le 20h de France 2, il est aussi l'intervieweur des présidents depuis son arrivée à France 2. Je sais pas si vous vous rappelez, sous Sarkozy, mais c'était toujours lui qui était invité à l'Élysée pour les entretiens du président. Mais il est aussi et surtout la personne qui est en charge de diriger les débats et de poser les questions dans la plus grande majorité des émissions politiques du service public. Et d'ailleurs, le service public, c'est l'une des dernières chaînes qui se permet de consacrer encore du temps aux interviews politiques. Alors David Pujadas a là, dans ces moments-là, un rôle énormément important. Il présente plein d'émissions, donc il présente Des Paroles et des Actes, une émission qui est diffusée en général le jeudi soir, qui dure plus de 2h30, et par conséquent qui est la seule à permettre aux divers candidats d'exposer leur point de vue en profondeur pendant les campagnes et également en dehors. Donc cet homme, il a énormément d'influence sur la manière dont sont menées les interviews politiques et par conséquent sur la manière dont ressort le discours de la personne qui va interroger. Car le journaliste a une importance cruciale sur la manière dont va être mené le débat. Car les questions posées seront les siennes et donc il emmènera le personnage politique en face de lui sur le terrain qui l'intéresse. C'est-à-dire, si par exemple, je sais pas, il a une personnalité du centre et qu'il a envie de lui parler d'insécurité, bon ben, on sait tous très bien que ça c'est plus du domaine de la droite et de l'extrême droite, ça c'est plus ce genre de questions qui vont les intéresser ou ils vont arriver à faire leur électorat plus facilement. Alors forcément, l'influence à du journaliste est importante dans ces moments-là et dans ces interviews. Alors, David Pujadas, donc je disais, a beaucoup d'influence. Nous allons donc mettre un peu d'éclairage sur lui, hein, puisque on le voit énormément dans les médias. Et aussi, on va mettre un peu d'éclairage sur sa manière qu'il a de poser les questions aux personnes qu'il a en face de lui. Et puisque, comme je disais tout à l'heure, il a été formé par l'école LCI et TF1. Et une fois qu'il a été bien formé, il a été récupéré par le service public, puisque ce brave journaliste, grâce aux chaînes comme TF1 et LCI, il a appris les recettes de l'audimat, et une fois qu'il était tout formé, il a été prêt à l'emploi et pris sur le service public. Puisque pendant une période, le service public avait un peu du mal avec l'audimat. Alors, tout d'abord, pour éclairer un peu la personnalité de David Pujadas, on va passer à un petit morceau d'un documentaire qui a été publié sur Arte il y a 5 ans. Ce documentaire s'appelait 8 journalistes en colère. Chacun de ces 8 journalistes, il y en avait 8, alors je me rappelle plus qui est-ce qu'il y avait exactement dans les 8, mais c'était 8 grandes personnalités du journalisme moderne, enfin grandes personnalités célèbres et récurrentes. Et il révélait l'idée qu'il se faisait du journalisme et de leur déontologie, etc. Ce que ça voulait dire d'être journaliste, comment on pouvait rester libre en étant journaliste et se débarrasser des pressions, si je puis dire. Alors c'est parti, écoutons.
Ils connaissent de l'intérieur la folle machine des médias. Nous leur avons donné carte blanche pour dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas, pour dire ce qu'on ne vous dit pas. David Pujadas est une star de l'info. Chaque jour, son journal de France 2 à 20h réunit plus de 5 millions de téléspectateurs. Nous lui avons demandé un édito sur la crise des médias. Écoutez sa réponse, elle est inattendue.
On entend souvent que le journalisme serait en difficulté à cause des pressions politiques ou des pressions économiques. Comme journaliste, comme lecteur, comme téléspectateur, je crois que le problème n'est pas à côté de nous, mais qu'il est en nous. C'est ce qu'on pourrait nommer le journalisme des bons sentiments, de même qu'il y a une littérature des bons sentiments. Mais il y a plus que ça. Le journalisme des bons sentiments, c'est aussi une bien-pensance. C'est l'idée que, par définition, le faible a toujours raison contre le fort, le salarié contre l'entreprise, l'administré contre l'État, le pays pauvre contre le pays riche, la liberté individuelle contre la morale collective. En fait, c'est une sorte de dérive mal digérée de la défense de la veuve et de l'orphelin. Alors que faire ? Bien, sans doute tout simplement, revenir aux fondamentaux du journalisme, s'écouter soi-même et laisser parler sa propre curiosité, ne pas se glisser dans un moule.
Voilà pour Monsieur Pujadas, qui s'exprime un peu sur ce qu'il pense du journalisme. Alors ce brave garçon, il a une vision particulière du journalisme, après tout pourquoi pas, mais bon. Au passage, j'aurais bien aimé qu'il nous explique où est-ce qu'il avait vu ce genre d'attitude chez les journalistes dans les grands médias, hein. Où est-ce qu'il a trouvé ces journalistes qui défendent le salarié face au patron, le faible face au fort. Alors il y en a peut-être, je dis pas qu'il y en a pas, mais il y en a pas tellement dans les grands médias de masse. Il parle peut-être des conflits qui se déroulent, mais de là à dire qu'ils prennent la défense des salariés, c'est un peu quand même se fiche de la gueule du monde. Alors, on va toujours rester sur David Pujadas, mais je débriefe juste deux secondes, c'est quand même assez hallucinant parce que c'est rare qu'on entende ce genre d'avis. Hein. Le mec n'insiste pas du tout sur le fait qu'il faille être libre ou plein d'autres aspects comme cela, ou que quand il commence par son petit édito sur le journalisme, par le problème, il est peut-être à l'intérieur de nous. Je me suis dit la première fois que je l'ai entendu, ah peut-être qu'en fin de compte il est moins bête que ce que je pensais, moi je pense qu'il est tout sauf bête hein, d'ailleurs, mais que vraiment il met le doigt sur quelque chose d'important, que la censure elle est peut-être plus pernicieuse que ce qu'on pense, et qu'il y a une forme d'autocensure qui se met en place quand on traîne dans un petit milieu. Mais non, il part pas du tout dans ce registre-là, il désingue le journalisme de la bien-pensance. Donc c'est un brave monsieur, il est gentil. Alors on va continuer, et on va parler de donc toujours David Pujadas, et pour mettre un peu en illustration le côté... je ne veux pas faire partie de la bien-pensance et du journalisme des bons sentiments. On va trouver un petit passage qui était passé une heure de grande écoute d'ailleurs aux 20h de France 2. Petite interview qu'a mené David Pujadas. Alors on écoute tout de suite, hein, je ferai un petit commentaire juste derrière, ce sera plus pratique.
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoix. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences?
Vous plaisantez, j'espère.
Je vous pose la question.
On regrette rien, ça va... Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs? À côté des milliers de vies brisées, ça représente quoi? Faut arrêter.
Pour vous, la fin justifie les moyens?
Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On est en train de nous expliquer que dans 28 jours, le plan social sera bouclé et on va aller à la rue. Oui, je ne regrette rien, personne ne regrette rien ici, parce que vous n'avez pas vu des casseurs, vous avez vu des gens en colère, des gens déterminés, des gens qui veulent pas aller se faire démonter. Crever, on veut pas crever, on ira jusqu'au bout de notre bagarre.
Xavier Mathieu,
aujourd'hui, on se rend compte.
On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir?
Alors voilà un peu pour les méthodes de David Pujadas. Bah, les méthodes, on peut appeler ça des méthodes. C'est juste un interview un peu violent. Enfin, un peu violent, il demande clairement Xavier Mathieu, enfin. Comme vous avez entendu, Xavier Mathieu, il est appelé à baisser les yeux, hein, et à demander pardon. Alors que lui et ses collègues ont tout perdu, on les a foutus à la porte comme des malpropres. Ils ont été virés par des patrons voyous qui possèdent un groupe faisant des millions de bénéfices et qui, sans scrupule, décident de ne tenir aucun compte des salariés, en fichant 1200 personnes à la porte sans raison valable, et de surcroît en refusant de les entendre. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, hein. On peut avoir son point de vue sur la question, on pourrait dire que je fais du journalisme de la bienséance, personnellement moi c'est peut-être ce que je suis en train de faire, mais le vrai métier de journaliste c'est de n'omettre aucun fait, de donner toutes les armes et les éléments aux citoyens pour qu'ils puissent juger en leur âme et conscience de la situation. C'est à ça que ça sert le métier du journaliste. Et là en l'occurrence, c'est pas ce qu'il est en train de faire, il le fait pas correctement. Car il est facile de prendre uniquement la fin de l'histoire et de dire aux syndicalistes mais monsieur, il faut pas casser, c'est inadmissible, pourquoi vous faites ça? Excusez-vous, prosternez-vous, léchez le sol s'il vous plaît. Alors que ces gars se demandaient juste à être entendus par le juge et le procureur depuis des semaines, sans aucune réponse bien entendu, si ce n'est que du dédain. Ces derniers avaient en plus accepté de bosser 40 heures par semaine chez Continental, sans salaire supplémentaire. Le tribunal refuse leur demande de suspension du plan social, alors que le secteur de Continental dégageait encore de très bonnes marges à ce moment-là. On parle d'environ 17% de marge bénéficiaire. Les ouvriers décident donc, sous le coup de la colère, de casser des bureaux dans une préfecture. Alors, aucune facture n'est jamais sortie sur ce qui s'était passé, hein. Je sais pas si vous avez vu, vous avez certainement dû tomber dessus. On voit une petite vidéo où on voit les gars dans la préfecture. Bon, ils prennent 2-3 écrans de PC, ils les poussent par terre, ils prennent des claviers, ils les tapent sur les bureaux. Bon, ils cassent 2-3 trucs, quoi. Après, ça, de là à savoir combien ça a coûté, ça a pas dû coûter énormément de choses. Et bien entendu, malheureusement, après, certains journalistes, ou d'autres personnes vont se plaindre de ça. Oui, les gens sont violents, les syndicalistes sont violents, etc. Mais une fois que ces gars, ils ont essayé de tenter cette petite action de enfin, de désespérer en fin de compte, parce que ils se sont rendus compte qu'on les avait tellement pas pris en considération. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah maintenant, on va les casser. C'est le seul moyen qu'on nous écoute. Donc une fois qu'ils ont cassé, eh bien pour une fois, ils ont été pris en considération, on les a écoutés, puisque ça a fait un sacré coup médiatique, c'est passé de partout dans les journaux, et malgré tout, les citoyens, ils sont pas imbéciles, ils voient bien que ces gars, s'ils ont fait comme ça, c'était pas par plaisir, mais c'est juste parce qu'ils étaient désespérés. Et juste après cette action, on les a un peu écoutés. Alors, ils ont été écoutés, on les a reçus, etc. Bon, au final, ça n'a pas changé grand-chose dans les médias, c'est pas totalement faux. Mais grâce à plein de choses, ils ont réussi, leur licenciement, à obtenir 50 000 euros d'indemnité de licenciement chacun. Alors, c'est assez étrange quand même que Continental trouve le moyen de sortir 50 000 euros par personne virée, alors qu'ils sont censés avoir des problèmes financiers et essayer d'améliorer leur compétitivité. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Il faut quand même rappeler que grâce à la rapidité indéniable de la justice, comme d'habitude, un an après que leur licenciement ait été prononcé et même acté, le tribunal des prud'hommes a décidé de leur donner raison en déclarant ces licenciements complètement illégitimes. Mais bien entendu, c'était trop tard, ils étaient déjà tous à la rue, ou pour certains, ils étaient reclassés. Il y a même Xavier Mathieu, donc celui qu'on entend, la personne qu'on entend dans l'interview, là, qui était le délégué syndical de CGT, qui avait vraiment pris la tête de la lutte. Lui, il a été condamné derrière pour les dégradations qu'il y a eu dans la préfecture de... Je ne sais plus c'est où la préfecture. Enfin bref. Et quelques mois après, le tribunal a jugé que cette accusation, enfin le verdict qui avait été rendu contre Xavier Mathieu et cinq autres personnes aussi, il y avait d'autres délégués. Finalement, ils ont décidé de ne pas leur donner d'amende et de ne rien leur donner du tout parce qu'ils ont estimé au tribunal qu'ils étaient, on va pas dire dans leur droit, mais que c'était une réaction et des circonstances qui faisaient que on pouvait comprendre les réactions de ces braves gars. Alors l'exemple suivant, on va rester toujours sur David Pujadas, j'espère que le petit passage que je vous ai mis était assez édifiant sur cette interview de Xavier Mathieu, parce que moi je trouve que c'est totalement inadmissible. Plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça, le seul truc qu'ils trouvent à lui dire c'est « bon, arrêtez, pourquoi vous faites ça, est-ce que vous lancez un appel au calme ?» Alors que bon, les gars tentaient juste une action. Alors donc je disais, l'exemple qui va suivre, celui-là il concerne Eva Joly. Je sais pas si vous vous rappelez, mais pendant l'élection présidentielle, là, en 2012, Eva Joly, après, chacun pense ce qu'il veut politiquement. Moi, je sais qu'elle me laisse pas indifférent. Je trouve qu'elle disait des choses intéressantes. Mais elle a été, on va dire, bien matraquée par les médias, parce que plein ont considéré que sa candidature était illégitime. Alors, pour quelle raison, on n'en sait rien, parce que peut-être qu'elle avait pas un accent qui plaisait à tout le monde, ou j'en sais rien. Je sais pas trop. En tout cas, donc, ce petit morceau est issu du film DSK Hollande, etc. C'est aussi un film de Pierre Carl, mais dans celui-là, on le voit pas devant la caméra. Il est seulement derrière. C'est lui qui a fait les montages. Mais il y a plein de petits journalistes bien pertinents qui sont allés poser des questions à plein de journalistes des grands médias traditionnels, genre Libération, etc. Pour comprendre comment ils avaient traité la campagne présidentielle. Il y a le Nouvel Obs, il y en a plein d'autres. Enfin, je n'ai pas tous les noms qui me viennent en tête. Et au passage, ils ont mis un peu en avant la manière dont avait été traitée Eva Joly pendant cette campagne, notamment David Pujadas. Comment il l'avait traité et comment il traite ses interviews, comment il mène ses interviews surtout. Et là, donc, ce petit passage est issu de ce film. Et après que il soit question du cas d'Eva Joly, c'est débriefé par François Ruffin, qui est un journaliste qui travaille au journal Fakir et de temps à autre avec le monde diplomatique, mais qui aussi, dernièrement, jusqu'à sa suppression, était assez souvent dans l'émission de Daniel Mermet, où il donnait son avis sur plein de sujets différents. Je sais que la dernière émission à laquelle il avait participé, c'était, le titre de l'émission, c'est « Comment ils nous ont volé le foot ». Lui est assez fan de foot et il trouvait que l'utilisation moderne du monde du foot était complètement ignoble et il voulait rappeler que c'était avant tout un sport populaire, etc. Alors, donc, on va passer ce petit passage du film DSK Hollande, etc.
Page spéciale politique, nous accueillons Eva Joly, dont l'absence depuis la semaine dernière, depuis l'accord entre les Verts et le Parti Socialiste, a fait naître le trouble et même le doute, y compris dans vos propres rangs.
Bonsoir Eva Joly.
Bonsoir.
Vous revenez donc sur le devant de la scène ce soir. Ma première question est très simple. Êtes-vous toujours candidate à l'élection présidentielle?
Je n'ai jamais douté du fait que je serais candidate jusqu'au bout. Et ma détermination est plus grande que jamais. Moi, je porte un projet, un véritable projet de civilisation, par un mandat qui m'a été donné par tous ceux qui ont voté aux primaires. Donc cette détermination-là, elle est vraiment bien solide.
On va parler de ce que vous pensez de cet accord, si c'est cet accord qui a motivé votre silence. Mais d'abord, est-ce que vous avez eu un moment de doute? Est-ce que vous avez eu un coup de blues en quelque sorte? Est-ce que vous vous êtes interrogé sur cette candidature?
On voit bien que ils n'y croient pas à ma candidature et qu'il y a un problème pour eux de légitimité. Qui est-elle, celle-là, qui vient d'ailleurs, qui ne fait pas de la politique depuis 30 ans et qui prétend porter un projet? Alors moi, j'ai l'impression que je ne cadre pas. Et on voit bien que la langue n'est pas la même, nous ne parlons pas la même langue. Dans l'interview avec Pujadas, j'explique combien est scandaleux l'intervention dans un accord entre partis politiques d'un lobbyiste d'une multinationale qui n'est pas chargée de l'intérêt général, mais de vendre de l'énergie nucléaire. Et sa réponse, elle n'est pas de creuser ou de savoir pourquoi cela me choque, mais c'est de prendre la défense du lobbyiste et dire c'est normal. Et ça, je trouve ça incroyable. Le paragraphe sur le MOX a été raturé. Et cela, pour moi, est totalement inadmissible. De voir les lobbies intervenir en direct dans la vie politique, dans un accord entre partis politiques.
C'est anormal que des dirigeants politiques de premier plan puissent consulter, y compris les groupes qui sont après tout les fers de lance aussi de l'industrie française.
Vous voyez, ça c'est le langage correct. On consulte. Mais justement, ce n'est pas une consultation. Ils ont modifié l'accord.
Quand même, quand elle dit ça à David Pujadas, moi je serais David Pujadas, si c'est vrai que Areva a appelé le Parti Socialiste pour faire raturer un paragraphe, je pense que ça mérite une enquête, et je pense que ça mérite un reportage, et je pense que ça mérite effectivement d'être dit au peuple français. Et là, la manière dont il réagit, c'est comme si c'était, bon, relativement secondaire, que ça se comprenait, que c'était comme ça que ça fonctionnait. Et je pense que là, elle pose quand même une question qui est une question vachement intéressante et qui mériterait, en tant que journaliste, d'être creusée.
Et voilà pour le petit extrait de DSK, Hollande, etc. Comme vous avez pu entendre, David Pujadas pose la question à Eva Joly de la légitimité de sa campagne et de sa candidature à l'élection présidentielle, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez comment ça s'était déroulé exactement. Il y avait deux candidatures, une pour le PS et une pour les Verts. Et durant la campagne, les Verts ont décidé de signer un accord avec le Parti Socialiste, un accord commun, entre guillemets, en tout cas sur le nucléaire, pour que certains députés du Parti Socialiste se retirent dans quelques circonscriptions pour que les députés verts soient élus et que les Verts aient accès à un groupe à l'Assemblée Nationale et aussi à quelques places au gouvernement, à condition bien entendu que derrière il y ait des accords sur le nucléaire. Et apparemment, ce qui s'est passé, c'est que EDF est intervenu dedans et a raturé et a fait enlever certains amendements ou certaines parties de l'accord qu'il y avait entre les Verts et le PS. Et c'est ça qui a un petit peu énervé Eva Joly, qui derrière, forcément, en plus, avec un accord comme celui-ci, n'a pas pu faire une campagne correcte, puisque de toute façon, elle pouvait bien raconter ce qu'elle voulait. Au final, son parti avait signé un accord avec le Parti Socialiste, donc ça ne changeait absolument rien. Alors, j'espère que c'était assez parlant. En tout cas, c'est la position de David Pujadas, comme il disait tout à l'heure quand il s'exprimait sur ce petit documentaire, dans ce petit documentaire sur Arte. Il faut pas toujours tomber dans le journalisme de la bien-pensance. Des fois, on peut prendre une position, nanani, nanana, etc. Et c'est exactement ce qu'il fait, puisque là, il parle avec Eva Joly d'un accord entre le PS et les Verts. Et le seul truc qu'il trouve à faire, c'est à défendre le fait que Areva soit intervenu. Pardon, c'était pas EDF, c'est Areva. Tout à l'heure, j'ai dit EDF. Que Areva soit intervenu dans l'accord. Il trouve ça tout à fait normal, alors que ça n'a rien à voir. Elle est une entreprise, elle est chargée de vendre. Son but, c'est de faire des profits, alors que les hommes politiques, en règle générale, sont censés s'occuper de l'intérêt général. Voilà pour le petit extrait. Alors maintenant, on va se passer un petit peu de musique là pour détendre un peu tout ça. La musique, un peu de musique, un peu de... Donc on va passer un morceau de Damien Saez qui s'appelle Lula. C'est un petit morceau d'amour, hein, tout ça. Hein. Alors, en avant Guingamp, et puis j'espère que vous avez tous trouvé votre Lula à vous, hein. Chacun son truc. Hein.
Refais-y ta recor, oui, les bras se vident, sans un mot sur les points. chose que j'aime. Tous les troquets, tous les rats de province, tous les trois rats, les endroits branchés. J'ai crié ton prénom dans les tourbillons de la vie, où je suis sûr qu'elle va se faire tirer la bourre du samedi soir. Rouler sans la ceinture à l'arrière du bagnole. Les filles aiment bien danser l'amour le samedi soir. Que quelqu'un ici a croisé mon amour. Elle a les yeux tristes, le corps du Christ. Elle aime bien traîner par ici, le corps comme un festin, pour offrir aux chiens le vidant tout serein.
Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 FM dans l'émission Les yeux grands ouverts. Le thème de la soirée, qui était aussi le thème de la soirée de la semaine dernière, c'est les médias. Alors, on était en train de parler du cas de David Pujadas, qu'on a illustré un peu par 2-3 documents audio avec des petits exemples qui démontrent un peu la manière qu'il a de faire ses interviews. J'espère que c'était assez parlant. En tout cas, on va revenir à notre histoire, donc. Alors, on se dit que forcément, avec des personnages comme cela, à des heures de grande écoute, on peut se dire que les questions qui sont posées aux personnalités politiques doivent être posées de manière particulière. Cela influe forcément sur la manière dont sont menées ces interviews et la perception que l'auditeur peut aussi en avoir. Mais peu importe, au final, après tout, on pourrait dire qu'il en est ainsi et qu'en démocratie, même les points de vue de radicaux comme cela ont le droit de s'exprimer et c'est tout à fait normal. Mais à une condition, ce serait qu'il y ait des contradictions fortes ou des points de vue inverses défendus avec le temps d'exposer les arguments aussi contraires à ces points de vue que défend un peu David Pujadas. Même s'il ne les défend pas, vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il a une manière de faire ses interviews, de mener ses interviews qui forcément donnent pas envie d'être sympathique, ne donnent pas un côté sympathique aux personnes qu'il interviewe, même si c'est pas forcément son objectif. Poussé dans ses retranchements comme il l'a fait avec Xavier Mathieu, une personne qui est complètement désespérée, qui a agi parce qu'il était obligé de faire comme ça, ou qui a agi par impulsion, je trouve que c'est pas très très malin. Alors, donc, ce que je disais, c'est que même si lui était là, c'est pas grave. Au pire qu'il soit là, tant mieux pour certaines personnes qui comprennent un peu son point de vue et qui l'apprécient. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des personnes pour exposer un point de vue inverse et pour mener des interviews différemment. Nous allons donc rester un peu sur Monsieur Pujadas, mais en prenant une position différente, hein, pour le côté manière de mener les interviews, on va un peu s'arrêter là pour ce soir, on va s'attaquer à autre chose. On va se placer donc d'un point de vue un peu plus marxiste, on va prendre une posture plus marxiste. On sait que le positionnement social détermine des 10 intérêts de classe. Enfin, pas 10 le chiffre, hein, qui ça détermine des intérêts de classe. Et qu'en fonction de nos revenus et de la qualité de notre niveau de vie, notre jugement est altéré, donc peut être modifié ou peut changer en fonction de la position sociale qu'on occupe tout simplement. Ces questions sur les revenus que peuvent toucher certaines personnes a été posée plusieurs fois à des hommes politiques, par exemple, puisque c'est ça aussi qui détermine notre position sociale, c'est les revenus, notre confort de vie. On a demandé donc aux hommes politiques à plusieurs reprises de déclarer leur patrimoine pour savoir où est-ce qu'ils en étaient financièrement et surtout s'il n'y avait pas de conflit d'intérêts qui pouvait les porter à prendre des positions contraires à l'intérêt général, ou du moins des intérêts qui pouvaient les contraindre à être influencés par certaines choses. C'est tout à fait légitime, hein, qu'on pose ce genre de questions dans une démocratie. Je trouve ça tout à fait normal, bien entendu. C'est même heureusement qu'on a décidé de le faire dernièrement. On se doit d'être clair et transparent publiquement quand on est un homme politique sur sa situation, etc. A fortiori, en plus, on est censé décider pour les citoyens qui nous ont élus, donc forcément, il faut que les choses soient claires pour eux, pour que les citoyens décident en tout état de conscience de qui ils décident de choisir pour les défendre et pour défendre leurs intérêts. Mais les questions là, on ne les pose qu'à eux. À chaque fois, on les pose qu'aux journalistes. Qu'aux hommes politiques, pardon. Et les journalistes, justement. Les économistes qui sont interviewés en permanence dans les médias, eux aussi, ils jouissent d'influence énorme sur les citoyens. Bon, eux, ils n'ont pas forcément la possibilité de prendre des décisions. Après, ils doivent avoir certainement la capacité d'influencer les hommes politiques avec lesquels ils doivent se croiser souvent. Les analyses qu'ils font des diverses situations politiques sur les sujets, etc., ces économistes... Et ces journalistes, et ces éditorialistes souvent, parce que ceux qui donnent vraiment leurs avis, enfin qui sont censés vraiment le donner, ce sont les journalistes éditorialistes. Les sujets qu'ils préfèrent aborder par rapport à d'autres, etc. Tout ça, ça influence les gens d'une manière ou d'une autre. Et ça dépend de la manière dont vont réceptionner le message, dont va être réceptionné le message par les gens aussi. Et ça leur permet aussi, enfin ils ont le droit aussi d'exprimer leurs ressentis dans les journaux, etc. Et tout ce qu'ils font comme ça, ça va permettre aux citoyens d'aller se prononcer et de livrer leurs ressentis dans les urnes. Alors il est facile d'être un éditorialiste qui répète aux Français, par exemple, matin et soir, de se serrer la ceinture et de faire une croix sur les services publics, parce que tout ça, ça nous coûte très cher, etc., etc., la dette, bon, on connaît l'histoire. On reproche en permanence aux politiques de gagner trop et d'être éloignés des réalités, ça on l'entend pas mal dire. Les politiques qui sont éloignés des citoyens, etc. Et les citoyens sont plus démunis qu'eux, les politiques qui s'essaient déplanquer, ils gagnent super bien leur vie, etc. Moi je dis pas qu'il n'y a pas des vices dans le truc, bien entendu qu'il y a des politiques qui en profitent, etc. Mais c'est pas aussi simple que ça. Et les journalistes dans tout ça par contre, et les prétendus experts, eh ben on sait pas ce qu'ils gagnent, on sait rien du tout sur eux. Pourtant c'est eux qui choisissent l'actualité, qui, par exemple on reprend le cas de Pujadas, c'est lui qui choisit de quoi va parler son journal de 20h, etc. Mais lui on lui pose pas de questions sur savoir ce qu'il gagne, avec qui il traîne, s'il a des intérêts financiers à droite à gauche, personne ne sait rien sur lui, mais c'est pas grave, ça a pas l'air de poser de problème. Alors on va recommencer à parler de David Pujadas, mais en prenant un peu cette posture marxiste pour essayer de savoir qui sont les journalistes, leurs intérêts, essayer de les comprendre. Et là, souvent, les journalistes sont appelés et sont eux-mêmes sommés à répondre. Les politiques, je m'embrouille entre les deux depuis tout à l'heure, c'est une catastrophe. Souvent les politicards sont sommés de répondre immédiatement sur leur situation financière, mais les journalistes jamais. Et là, ce soir-là... ce qui s'était passé en fait, c'est que Monsieur Pujadas reçoit un invité au journal de 20h. Malheureusement, il est tombé sur un os. C'était après l'affaire Cahuzac, donc il y avait toute une histoire, donc forcément de... Il y a eu toute une vague de prétendue transparence où tous les hommes et les femmes politiques se sont précipités dans tous les médias pour dévoiler tout leur patrimoine, pour faire amende honorable. Oui, non, mais attendez, moi je suis pas comme Jérôme Cahuzac. Moi, j'ai deux canoës, j'ai une Twingo, j'ai une bague en or... J'ai une poupée gonflable, enfin bon, ils ont raconté tout un tas de conneries. Mais les journalistes sont passés à travers. Sauf que là, ce soir-là, David Pujadas, il reçoit un invité, qui est un homme politique, et bah lui qui va pas se plier à l'exercice et qui va commencer à lui poser quelques questions. Et on voit que David Pujadas est très 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 rapidement un peu emmerdé.
est-ce que vous aussi, vous allez dévoiler, publier votre patrimoine ?
De toute façon, personne ne pourra y résister. Quant à moi, je suis un habitué de la chose, puisque j'ai dû déclarer mon patrimoine lorsque j'ai été élu sénateur, puis quand je suis parti, puis quand je suis entré comme ministre, puis quand je suis sorti, puis quand je suis entré comme député européen. Donc je passe mon temps à compléter, rectifier, et nous sommes surveillés.
Mais pas publiquement. Est-ce que vous êtes prêt à le faire publiquement ?
Non, mais déjà, il faut que tout le monde comprenne bien, pour comprendre la trapenigot auquel on est en train de se livrer actuellement.
Ah, c'est un trapenigot, alors ?
Évidemment. Bon. Évidemment. Parce que le vrai règlement, ça consiste à donner, non pas à afficher sur l'étiquette des choses que personne ne peut aller vérifier. Monsieur Cahuzac racontait ce qu'il voulait. Ça consiste à donner du pouvoir aux gens d'intervenir. Comment vous expliquer qu'à chaque fois qu'il y a un scandale, tout le monde dit après « Ah mais tout le monde savait, moi je dois faire partie de la petite cohorte d'imbéciles qui ne sait jamais rien. Je ne savais pas quelle était la vie de M. Strauss-Kahn, pourtant tout le monde a dit qu'on savait. » Quant à M. Cahuzac, M. Hervé Morin a déclaré que tout le monde savait à Paris, dans les déjeuners mondains, que 9 cheveux sur 10 qu'il implantait étaient payés au noir. Alors, la question qui se pose, et qui est très intéressante, c'est pourquoi n'y a-t-il que Mediapart qui ait fait le travail ? Est-ce que vous êtes prêt à déclarer votre patrimoine pour qu'on s'assure que rien dans votre patrimoine fait que vous êtes gêné pour me poser certaines questions ou à d'autres grands industriels.
Avouez qu'être un élu du peuple, c'est un peu différent, c'est un statut à part.
Mais journaliste, c'est très important aussi.
Bien sûr.
Mais c'est vous aujourd'hui, qui faites l'actualité.
Voilà, convenez qu'aujourd'hui, le débat est sur les élus du peuple.
J'étais juste le temps de vous...
Dites-moi oui ou non.
Je voulais vous taquiner. Mais bien sûr que oui, je l'ai déjà fait 10 fois, pourquoi ne le ferais-je pas une 11e. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un attrape-nigaud. Je viens de dire comment on pourrait donner du pouvoir au peuple. Je vais vous dire une deuxième chose. Une bonne décision, au lieu de gesticuler comme ils sont en train de le faire, ça serait d'obtenir que plus une banque en France ne puisse s'installer sans être obligée de déclarer... de lever le secret bancaire, comme c'est le cas aux États-Unis d'Amérique et dans un certain nombre de pays. Deuxièmement, que les banques françaises n'ont pas le droit de travailler dans les paradis fiscaux, de manière à ce qu'on ne puisse pas aller en bas de chez soi, déposer sa valise de billets pour qu'elle parte directement aux îles Caïmans. Ça, c'est des mesures réelles. Le reste, publier le patrimoine, mais c'est une histoire de j'en foutre.
Une histoire de gesticulation, on a compris votre sentiment, ce qui vous pousse d'ailleurs à ne pas le déclarer publiquement, si on a bien compris ce soir. Je n'ai pas entendu votre question.
Vous dites oui aussi, vous avez rien à cacher non plus, puis tous les soirs on vous voit à la télé.
On va pas recommencer.
Vous répondez oui ou non ? Je vous ai répondu oui, qu'est-ce que vous répondez vous ?
Non mais vous me répondez oui, mais vous ne dévoilez pas votre patrimoine, ce qui est votre droit le plus strict.
Ah, vous voulez que je vous détaille mon patrimoine ? On commence par quoi ?
Je vous demande
les bijoux, les chevaux, les valeurs. Allons, soyons sérieux. Non, on vient pas jouer. Je ne joue pas.
C'est votre droit le plus strict.
Non, c'est pas mon droit le plus strict.
Bien sûr,
c'est
votre droit.
Dans un commissariat.
Bien sûr.
Mais moi, je suis prêt et je l'ai déjà fait, donc ça ne me dérange pas de continuer à le faire.
Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir
merci de m'avoir interrogé. J'ai pas eu le temps de vous dire tout le bien de ce que coûtent les livres que j'ai, les dessins, les photos que j'ai faits qui ont une valeur inestimable.
On a compris que c'était pas forcément dans votre intention, ce qui encore
si,
une
si,
fois
si,
est
je
strictement
faire bien l'enterner
votre
pour
droit.
Mais vous n'avez pas répondu. Vous êtes prêt ou pas ?
Avouez que le problème aujourd'hui se pose sur les élus.
Ah oui, pas sur les journalistes, donc on ne sache rien.
Demain peut-être.
Moi je crois que les patrons de chaîne, les chefs de service devraient tous faire connaître leur patrimoine de manière à ce qu'il n'y ait pas de doute sur le fait qu'éventuellement il y ait des pressions sur eux. Parce que je ne m'explique pas pourquoi il n'y a que Mediapart qui est capable de mener des enquêtes jusqu'au bout dans ce pays.
Merci d'avoir été notre invité.
Donc voilà ce petit interview qui a été mené au journal de 20h. Alors Mélenchon, puisque je suppose que vous l'avez reconnu, je voulais pas dire son nom, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je l'ai pas dit, j'aurais pu le dire. Donc c'est Mélenchon qui était porte-parole du Front de Gauche à ce moment-là, qu'il est encore toujours hein, d'ailleurs. Il dévoilera son patrimoine sur son blog quelques jours plus tard, il les aura bien fait attendre, c'était juste un peu histoire de les emmerder. Alors qu'on attend encore hein, quand même celui de David Pujadas, hein, qui pourtant a été... Jean-Luc Mélenchon lui a demandé plusieurs fois s'il était capable de le faire, il a été incapable de répondre oui. Donc lui, on saura jamais s'il y a des pressions sur lui ou exactement si peut-être il place son argent à droite à gauche ou je ne sais pas. D'ailleurs, si on veut aborder un petit peu cet aspect-là, il y a des choses qui sont très intéressantes. Encore une fois, dans le documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde, il y a plein d'aspects qui sont traités et il y a notamment un aspect qui est traité qui est super intéressant. C'est le fait que certains journalistes proposent leurs services pour aller vanter les mérites de certains médias ou certains produits dans des conférences. Alors c'est très très amusant comment c'est traité, la manière dont c'est traité. C'est Monsieur Lambert, encore le fameux, celui de qui on suivait la journée pour voir exactement quand est-ce qu'il était confronté aux médias de Lagardère, etc. Donc c'est lui qui passe un coup de fil à une entreprise en se faisant passer pour un grand chef d'entreprise et en disant oui bah je voudrais faire une grande conférence à tous mes devant tous mes salariés, je voudrais faire venir une grande personnalité de l'audiovisuel public, enfin de l'audiovisuel pas forcément public, un journaliste avec une certaine renommée pour leur donner, leur inculquer l'esprit d'entreprise, etc. Et à ce moment-là, en les rongeant un petit peu, en les poussant un peu dans leur retranchement, il arrive à se faire envoyer une liste où il y a environ une trentaine de journalistes qui proposent leurs services pour certaines sommes d'argent. Alors il y a par exemple Isabelle Giordano, enfin il y en a tout un nombre. Et c'est assez affligeant de voir qu'en fait les journalistes ils peuvent être financés et demandent même en plus à toucher de l'argent des grandes entreprises et à parler pour elles et à les mettre en avant sans que personne ne bouge le petit doigt. Mais bon, ce n'est pas des politiques, c'est des journalistes. Et puis eux, ils ont l'avantage d'être en plein dans les médias. Et si jamais ils veulent jeter l'opprobre sur les journalistes, ils ont tellement d'influence que plus personne n'ose les toucher. Donc comme j'expliquais, Mélenchon dévoilera son patrimoine quelques jours plus tard en se moquant un petit peu. D'ailleurs, sur son blog, il a marqué « Tout sur moi », il a même donné ses mensurations, etc. Alors le but dans tout ça, c'est pas de dire « Oui, votez Mélenchon, tout ça, on s'en fiche, hein, chacun pense ce qu'il veut ». C'est juste que dans cette période-là, où tous les hommes politiques arrivaient à plat ventre sur tous les plateaux de télé pour dire « Oui, alors attendez, moi, si je me suis acheté une paire de baskets la semaine dernière », c'était le seul qui osait dire à un journaliste « Bah écoutez, ouais, je veux bien dévoiler ce que je gagne, moi j'ai aucun problème avec ça, de toute façon ces données elles sont censées être publiques, mais alors à ce moment-là, je voudrais bien que vous, journaliste, vous fassiez la même chose. » Et ce que bien entendu, personne ne fera. Et là alors on peut commencer à donner d'autres exemples. Alors le mec dont il va être question, la personnalité politique dont il est question dans ce prochain petit extrait, c'est pas du tout ma tasse de thé, de toute façon au pire hein, c'est comme ça. Chacun pense ce qu'il veut politiquement. Alors après sur le... lui, il dit qu'il se prétend gaulliste. Bon, alors après, ça reste à vérifier. Hein. Ce qu'on entend par ce terme gaulliste, ça veut tout dire et rien dire. Après avoir essuyé des moqueries arrogantes, en fait, pendant toute la soirée par Denisot et Apathy, qui se foutaient de sa gueule parce qu'il parlait de la sortie de l'euro, etc. Alors, bon, chacun pense ce qu'il veut, mais on sait que de plus en plus d'économistes l'évoquent. Hein. Ils disent que c'est pas une solution complètement stupide et que c'est envisageable. Et des économistes qui, contrairement à ce que plein de gens pourraient croire, sont pas des économistes d'extrême droite ou je ne sais quoi. Il y en a plein dans les milieux de gauche, notamment Jacques Sapir, Frédéric Lordon, qui est classé à l'extrême gauche limite, ou encore Jacques Généreux, qui est l'économiste du Front de Gauche, du Parti de Gauche, pardon, pas du Front de Gauche. Donc c'est tous des gens qui ont une mentalité très très à gauche et qui pourtant ne se refusent pas à la réflexion de dire bon bah on va sortir de l'euro parce que les Allemands sont en train de nous étrangler. Et d'ailleurs, ce qui est en train de se passer dans les médias à l'heure actuelle, le fait qu'on se foute de la figure de n'importe quel homme politique qui ose envisager ça, c'est une belle arnaque à la démocratie, parce que c'est pas parce qu'on veut revenir au franc qu'on veut rejeter les pays étrangers qui sont autour. C'est juste que bah monétairement on est en train de se faire étouffer par la politique européenne, alors on voudrait peut-être changer. C'est une solution qui est envisageable si jamais on n'arrive pas à faire plier les Allemands sur la politique économique. Bon bref, j'ai fait une petite aparté. Alors donc, je vous parlais de cet homme politique qui essuie les moqueries toute la soirée par ces deux personnalités assez importantes de l'audiovisuel. Un qui est journaliste, l'autre qui est carrément journaliste économique qui est censé être très pointu alors qu'il ne l'est pas du tout. Donc il va essuyer des moqueries sur sa manière de mener l'économie. Et ces belles personnes... Le pousse un peu à bout et il finit par craquer, et au bout d'un moment il les met devant le fait accompli avec une pointe de démagogie, hein, on va reconnaître un petit peu. Bon, c'est un mec qui est classé un peu à droite puisqu'il se prétend gaulliste, donc forcément il y a un peu de démagogie. Il parle toujours des Français avec des grands accès d'éloquence, etc. Mais vous allez voir que même si dans sa manière d'interpeller Denisot et Apathy il y a un peu de démagogie, les réponses qui vont lui être données le sont encore plus, et c'est hallucinant. Allons-y.
Je m'en fous un peu tout ça. Je vais vous dire, moi je sais pourquoi les Français lisent plus les journaux.
Ah.
Bah oui.
Mais il faut vous mettre.
Mais ils vont sur Internet. Ils vont sur Internet. Et heureusement qu'il y a Internet.
Mais c'est pas la faute.
Parce que tous ces éditorialistes de bazar.
On va y parler avec Vincent.
Tous ces éditorialistes de bazar qui vivent ensemble, qui font toujours les mêmes articles et qui sont totalement coupés de réalité, qui gagnent un argent fou et qui croient connaître les Français. Ils connaissent plus rien des Français. On va s'en débarrasser un jour.
Enfin. On va y venir. Attendez,
je vais vous dire. Mais je me mélanchonise pas. Mais madame, venez avec moi un jour. sur le terrain. Venez voir les Français. Allez voir les Français qui vivent, qui souffrent.
Non, on vit pas dans la même
monde. Mais on vit pas dans le même monde. Mais oui, monsieur Benito.
Non, je sais pas où je vis.
Eh bien, donnez-nous votre salaire. Combien vous gagnez?
Mais c'est moi qui le paye.
Combien vous gagnez?
Ça vous regarde.
Ça vous regarde pas. Dites aux Français. Combien vous gagnez?
Vous êtes payé.
Vous n'oserez pas le dire.
C'est moi qui vous paye avec ces impôts, monsieur.
Ah. Et les Français, ils ne contribuent pas à votre richesse.
Je ne veux pas polémiquer.
Vous ne pouvez pas dire droit dans les yeux combien vous gagnez aux Français. Parce que c'est une somme tellement extravagante qu'à force de jouer les bons samaritains ici.
Mais je ne joue pas les bons samaritains.
Non. Dites combien vous gagnez aux Français.
Je ne vous dirai pas.
Eh bien, voyez. Ça veut dire que tous ces gens qui s'en mettent plein les poches, qui donnent des leçons à la terre entière, et qui ne veulent pas voir la souffrance des Français.
Mais vous
c'est facile.
Plein les poches.
Oui, plein les poches. Donnez vos salaires.
Traitez-nous de voleurs.
Donnez vos salaires. Donnez vos salaires.
Traitez-nous de voleurs.
Je ne traite pas de voleurs.
Mais plein les poches. Qu'est-ce que ça veut dire?
Osez dire votre salaire.
Plein les poches.
Osez dire votre salaire, monsieur Apathy.
Mais mon salaire, monsieur.
Osez le dire.
Je le mérite, mon salaire.
Mais peut-être, alors dites-le.
Comme vous.
Eh bien, dites-le si
vous voulez. Eh bien, je ne vous le dirai pas.
Ah,
vous n'êtes pas un inquisiteur.
Eh bien, vous n'êtes pas capable de donner votre salaire.
Vous n'êtes pas digne de la politique.
Ah, pas digne?
Non. Vous n'avez qu'à faire une loi pour obliger les gens.
Vous prenez de l'argent.
Pour obliger les gens à dire leur salaire.
Et vous ne voulez pas dire votre salaire. Ah, c'est du populisme.
Intégral.
Si vous saviez comment vivent les Français, vous ne penseriez pas pareil.
Bon, bon.
Si vous sortiez un peu de votre petit milieu, vous ne penseriez pas pareil.
Votre agressivité vous discrédite.
C'est pas une agressivité. C'est qu'il y en a assez d'avoir des leçons de gens qui ne savent pas comment vivent les Français à la fin du mois.
Mais c'est vous qui donnez des leçons. C'est vous qui donnez des leçons.
Maintenant,
c'est vous qui donnez des leçons.
On arrête. Chaque jour, Mouloud Achour rencontre une personnalité média qui a marqué le candidat. C'est le Daily Mouloud. Le Daily Mouloud.
Ça vous sert la soupe qu'Alain Duhamel parle comme ça de vous?
Mais je m'en fous complètement. Ce que je veux dire, pour être sérieux, c'est que dans un pays, soyons sérieux, qu'à tant de souffrances...
Pourquoi vous ne l'étiez pas avant?
Où les Français n'arrivent même plus à nourrir leurs enfants. Où il y a tant de chômeurs, où il y a tant de licenciements. Voir une petite classe qui passe sa vie à donner des leçons, qui se moque des hommes politiques, qui essayent de comprendre ce que vivent nos concitoyens. J'ai pas la vérité. Il y a des vérités. Je demande juste que des vérités différentes puissent, dans notre pays, ne pas être caricaturées, ne pas être salies, ne pas être méprisées. La démocratie, c'est l'égalité des candidats. C'est tout ce que je demande. Et il y a un moment où, c'est pas moi qui le dis, vous savez, il suffit de se promener dans notre pays et de voir le ras-le-bol de nos concitoyens vis-à-vis, pas des généralités, c'est pas les journalistes. Je parle pas des journalistes. Je parle de certains éditorialistes parisiens qui veulent dicter leur conduite à l'opinion française. Et je dis que l'opinion française, il y a un moment, elle a envie de penser par elle-même. Et ça ne leur interdit pas de dire ce qu'ils veulent.
C'est le vote.
Mais moi,
c'est
j'ai
le
droit aussi de dire ce que je pense.
C'est le vote.
Et j'ai la franchise de le dire
c'est
en
le vote
face.
Qui permet
oui. Et j'ai quand même la franchise de le dire en face, alors que beaucoup de mes petits camarades ou de mes collègues députés le disent en sous-main. Mais quand ils viennent devant vous, ils sont à plat ventre. Et puis quand ils s'en vont, ils bavent. Moi, je suis franc. Je l'ai dit franchement pour Duhamel. J'ai dit les choses franchement. Ouais. Voilà, point. Alors,
la plupart des téléspectateurs.
Voilà pour le petit extrait. Bon, alors il y a un petit débordement avec le morceau que, enfin le truc que je vais vous mettre après, mais c'est pas grave. Alors après l'objectif c'est pas non plus et encore moins que tout à l'heure pour Jean-Luc Mélenchon, avec qui à la limite j'ai beaucoup plus de sympathie politique que le personnage qu'on vient d'entendre là, donc c'était Nicolas Dupont-Aignan pour ceux qui connaissent pas, qui se prétend gaulliste. Alors après on voit la manière qu'il a de s'exprimer. Oui, vous connaissez pas les Français, tout ça. Alors que lui, on se demande s'il les connaît vraiment. Hein. C'est pas ça la question. Mais ce qui est marrant, c'est la manière dont se déroule le petit interview. Au moment où il commence à leur dire, bon, puisque vous me faites des leçons de morale depuis tout à l'heure et que vous prétendez bien connaître les Français et être limite leur porte-parole pour me poser des questions, bah expliquez-moi et dites-moi combien vous gagnez. Et là on rigole bien quand on voit les réactions. Alors, comme je disais, c'est vraiment, il fait pas du tout partie de mon obédience, de mon obédience politique. Mais bon, il a quand même le mérite de soulever le débat, de soulever un débat, en tout cas. Alors lui, je sais qu'il était par exemple pour la sortie de l'euro, il l'est pas pour les mêmes raisons que les économistes à gauche. Lui, c'est certainement en mode, je veux fermer les frontières, etc. Donc ça, c'est encore un autre problème. Mais donc il a quand même le mérite de soulever le débat, mais il a surtout raison de dénoncer les éditorialistes qui font la leçon de morale à longueur de journée à tout le monde, mais qui sont à 10 000 lieues de comprendre comment vit ce qu'on pourrait appeler, sans vouloir caricaturer, le petit peuple. Alors je ne garantis rien de ce que je vais dire, mais en cherchant, j'ai trouvé une interview de Bruno Mazur, ancien présentateur du Journal de France 2, je crois que ça remonte à il y a plus de 10 ans, qui tacle certains des journalistes fainéants qui ne creusent pas les infos et qui gagnent trop. Hein, je explique un peu ce qu'il dit. Et il y parle notamment de Jean-Michel Apathy en disant que ce dernier, il est un peu hardcore, il parle de la clique de journalistes branleurs sur Canal+. Et il finit par dire, je suis persuadé que Jean-Michel Apathy gagne au moins 30 000 euros par mois. Alors c'est impossible de vérifier la véracité de ces faits. Je n'ai aucunement envie de balancer des chiffres comme ça en accusant qui que ce soit ou machin. Mais c'est juste histoire de dire qu'à titre informatif, c'est ce que dit Bruno Mazur, qui a été présentateur du journal télé pendant quelques années, donc il doit avoir certaines notions. Après, donc comme je disais, c'est impossible de vraiment vérifier la véracité de ce qu'il a dit. Mais bon, derrière, ce qu'on sait, c'est que Jean-Michel Apathy n'a rien démenti du tout. Donc voilà. Après, j'ai essayé un peu de chercher, mais j'ai pas énormément eu le temps non plus. Creuser un petit peu, il y a des pages internet où on raconte absolument n'importe quoi. On dit que Jean-Michel Apathy, ça doit être des sites particuliers, hein, un peu populo et démago. Ou oui, Jean-Michel Apathy gagne 80 millions d'euros par an. Oui, c'est ça, bien sûr, certainement. Donc on sait que c'est totalement faux, mais quand je vois 30 000 euros par mois, ça me paraîtrait, en plus Bruno Mazur dit au moins, ça me paraîtrait pas complètement illogique par rapport à l'audience que peut faire le Grand Journal et l'importance qu'a pris Jean-Michel Apathy dans les médias. On sait qu'il travaille aussi le matin sur RTL, etc. Donc il doit bien gagner sa vie quand même. Alors on poursuit sur ce thème avec un passage des nouveaux chiens de garde. Alors bon, là on était parti un peu plus sur le côté salarial, mais on va y rester un petit peu, on va toucher un peu à ce sujet-là, mais on va plus se pencher sur le côté conflit d'intérêts. Mais là on va abandonner les journalistes classiques et on va parler de ce qu'on appelle les consultants, qui aujourd'hui sont appelés les experts, ces fameuses personnes qui occupent tout l'espace médiatique en y apportant la parole sainte de l'économie libérale. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un débat ou même une émission politique ou n'importe quoi, il y a toujours une personne qui débarque en plein milieu de l'émission. Oui, attention, voilà l'expert en économie, voilà l'expert en cuisine à l'huile, voilà tout ce que vous voulez. Il y a toujours une nouvelle personne qui débarque comme ça et qui prétend tout connaître sur tout, mais c'est pareil, ces gens-là, on ne sait pas exactement qui ils sont, ce qu'ils gagnent, etc., etc. Donc on ne peut pas savoir quel éventuel conflit d'intérêts ils peuvent avoir. On sait, hein, si on réfléchit un petit peu, que les trois quarts des économistes qui viennent dans les émissions comme celle-ci, ce sont pas des économistes je dirais keynésien ou limite marxiste. C'est complètement l'inverse. Ce sont trois quarts du temps ces économistes libérales. Hein. On sait très bien, on connaît la clique, Alain Minc, Jacques Attali, etc. Et là, il est question de ça. Et c'est un petit passage du documentaire que je vais bien décortiquer pour vous, qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, qui est réalisé par Gilles Balbastre. Et là, c'est un petit passage qui traite justement des experts, là où je vous ai un petit peu que j'ai un petit peu introduit en me ratant tout à l'heure. En fait, ça commence par Alain Perfit qui est, comme j'ai expliqué lors de la précédente émission, s'invitait au journal de 20h dans les années 60. Là, il s'était invité pour expliquer la nouvelle forme qu'allait prendre le journal télé, et que dans les débats qui allaient être menés dans les journaux télé, il y allait avoir des experts qui allaient débarquer. Et c'est lui qui entame, qui lance un peu le truc. Et derrière, il y a le documentaire et les personnes qui l'ont mené, notamment Gilles Balbastre et plein d'autres, expliquent un peu qui sont ces personnes qui sont des prétendus experts. Alors c'est parti.
La plupart des téléspectateurs souhaitent que les informations leur soient exposées non par toujours le même présentateur, mais par des spécialistes des différents problèmes internationaux, économiques, sociaux, judiciaires, parlementaires. C'est pourquoi le présentateur sera transformé en une sorte de meneur de jeu qui devra s'effacer pour laisser la place soit aux images, soit aux meilleurs spécialistes d'une question. J'espère, je crois, que les téléspectateurs de bonne foi, c'est-à-dire presque tous, reconnaîtront que cette nouvelle formule qui supprime les commentaires pour laisser parler seulement les images ou les faits ou alors des dialogues marquera un progrès vers l'objectivité et la dépolitisation. Voulez-vous dire par là, monsieur?
Le rêve d'Alain Perfit est devenu réalité. Ce spécialiste qu'il décrit, garant de l'objectivité et de la dépolitisation de l'information, est aujourd'hui l'invité permanent des plateaux de télévision, des émissions de radio et des colonnes de journaux. On l'appelle l'expert. Économiste, sociologue, politologue, intellectuel, ses titres universitaires donnent à ses affirmations le brillant de la science. Mais le cénacle des experts est très restreint. Tous médias confondus, ils sont à peine une trentaine. D'une émission à l'autre, ils se croisent, se remplacent, se retrouvent, se succèdent pour répondre à toutes les questions que les journalistes aimeraient que nous nous posions.
Alors avec nous ce soir, un économiste expert français qui connaît bien ses problèmes, vous publiez à la main qu'un...
Qu'est-ce qu'on peut dire, Christian, de 2008 ?
Bon, d'abord, que c'est intéressant. On est un peu décroché sur les jeunes et sur les gens de plus de 50 ans.
Monsieur Lorenzi.
La question est claire, nette.
Parfait. Jean-Hervé Lorenzi.
Sur le diagnostic, je suis stupéfait qu'on puisse ne pas être d'accord.
Nicolas Bavray, est-ce que j'ai envie de poser la première question?
Aussi Nicolas Bavray, historien et économiste. Et enfin, Jacques Attali, président de Planète Finance.
Bonjour Jacques Attali, il est 17h45.
Je pense vraiment qu'il faut replacer tout ça dans le contexte de l'évolution mondiale.
À vos côtés, Eli Cohen, bonjour. Merci bonjour. D'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche au CNRS.
Est professeur. Économiste, directeur de recherche au CNRS. Vous enseigné à Sciences Po. Enfin, Michel Godet est professeur d'économie au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers.
Arrêtons-nous un peu sur l'un de ces experts. Pas plus intelligent que les autres, mais pas moins non plus. Pas plus connu, mais pas moins non plus. Comme les autres, il est invité plusieurs fois par mois à donner son avis d'un talk show à une matinale radiophonique, en passant par une tribune dans un grand quotidien. Cet expert ordinaire s'appelle Michel Godet. Et sans vraiment s'en apercevoir, les Français ont tous un peu grandi avec lui.
Dans un monde qui change, il faut changer aussi les règles du jeu. Et c'est un facteur de crise. Si on veut essayer de continuer avec nos règles du jeu social, nos conventions collectives, nos habitudes, nos petites habitudes, entre guillemets, dans ce monde qui a changé, il faut accepter éventuellement de reconsidérer qu'on sera libre le mercredi, mais qu'il faudra peut-être travailler le samedi.
On veut rentrer dans l'avenir avec des conventions collectives qui ont été écrites en 1945, voire en 1909, quand il s'agit du statut des cheminots. Donc je crois que dans ce monde qui change, il faut aussi changer nos règlements.
Ce qui compte, c'est le nombre d'heures travaillées au long de sa vie. Et par combien de personnes? C'est la quantité de travail. Or, en France, si on continue à avoir si peu de gens qui travaillent moins qu'ailleurs, on cumule tout et qui partent plus tôt, le compte n'y est pas. Et dans la plupart des autres pays, où le taux de chômage est plus faible qu'en France, c'est des pays où il y a plus de gens au boulot et où les gens travaillent plus longtemps. Comme je l'ai dit, moi, dans mon jargon simple, c'est pas en ramant moins qu'on avance plus vite. Il faut travailler plus tôt, il faut travailler plus tard, à temps partiel, et un peu plus de souplesse et de pluralisme dans tout ça. C'est un système monolithique, tout le monde marche au pas, et je crois que c'est ça qu'il faut casser. Ouais. Donc on n'a pas assez de gens au boulot, notamment parmi les jeunes et les plus anciens, qu'on met à la casse. Et en plus, chez nous, ils ne travaillent pas assez. C'est l'activité qui crée l'emploi. L'activité.
Au fil des ans, cette détermination infatigable à répéter aux Français qu'il faut travailler plus a surtout permis à notre expert ordinaire de gagner plus. Son omniprésence médiatique lui a apporté une publicité suffisante qui lui permet aujourd'hui de facturer généreusement ses conférences auprès des entreprises et des institutions.
On m'a présenté de façon un petit peu, à la fois élogieuse mais aussi inquiétante.
Faisons l'hypothèse d'une conférence par mois, soit 78 000 euros par an. Si l'on ajoute son salaire de professeur au Conservatoire national des arts et métiers, environ 48 000 euros, sa rémunération en tant qu'administrateur de la multinationale Bongrain, aux alentours de 25 000 euros, Michel Godet gagnerait donc environ 150 000 euros par an.
Bravo Michel.
150 000 euros, soit l'équivalent de 10 années de SMIC.
J'ai laissé un PDF de ma présentation, comme on dit.
Un SMIC qui, pour Michel Godet, reste pourtant trop élevé.
Pour vous, Michel Godet, il faudrait oser envisager quoi, un abaissement du niveau du SMIC?
Vous comprenez, la logique est simple. Comme on ne veut pas s'attaquer aux relations privilégiées avec les partenaires sociaux, on ne veut donc pas poser la question du SMIC, qui malheureusement, dans une économie ouverte, comme on l'est, et le sera de plus en plus, est un véritable fossoyeur de l'emploi, puisque le prix international du travail non qualifié, comme on dit chez les spécialistes, ne peut que baisser. Oui, l'objectif des entreprises...
Michel Godet est tout à fait représentatif de cette trentaine d'experts omniprésents dans l'espace médiatique. Comme lui, en effet... Presque tous siègent au conseil d'administration de grandes entreprises, collaborent avec des banques, conseillent des fonds spéculatifs. Pourtant, ce ne sont jamais ces fonctions-là qui sont mises en avant. Lorsqu'ils sont invités dans les médias, c'est sous leur titre universitaire que les journalistes les présentent.
La question, c'est pourquoi les grands médias
Font-ils le silence sur ces collusions que j'ai appelées les liaisons dangereuses entre un certain nombre d'économistes qu'on invite systématiquement et les milieux d'affaires? Les citoyens, les auditeurs, les téléspectateurs regarderaient tout autrement un brillant économiste universitaire s'il savait que cet économiste est largement rétribué par les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés privées, comme administrateur, c'est-à-dire au centre de la gestion de ces entreprises.
Élie Cohen, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche au CNRS, professeur d'économie. Dominique de Villepin, la semaine dernière, enfin cette semaine, a demandé...
Je ne vois pas comment on peut prétendre aujourd'hui rester intellectuellement indépendant quand on est totalement inséré dans des réseaux de milieux d'affaires. Je veux dire, aujourd'hui, on considère que si un expert est à la fois membre de l'Agence de la sécurité des aliments et membre d'un conseil d'administration d'une grande entreprise agroalimentaire, il y a conflit d'intérêts. Et je crois que tout le monde est prêt à admettre ce point de vue. Eh bien, je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas, dans le cas d'économistes rémunérés par des banques, des assurances ou des grandes entreprises pour faire grandir les intérêts, les bénéfices de ces sociétés, pourquoi on ne parlerait pas de conflit d'intérêts?
Jean-Hervé Lorenzi, professeur à Paris Dauphine.
Ces gens-là nous disent, nous restons totalement indépendants intellectuellement, mais nous ne pouvons pas les croire.
S'il est difficile, en effet, de croire à la neutralité de ces experts, il est en revanche relativement facile de deviner où ils dînent le dernier mercredi de chaque mois.
Autrement dit, leur fonction est très concrètement promouvoir, y compris dans les grands médias, dont ils sont pratiquement exclusivement les invités, la pensée unique économique qui est celle du capitalisme dominant.
C'est ainsi que depuis une trentaine d'années, devant les Français, un débat passionnant s'est engagé entre ceux qui sont convaincus des vertus du marché et ceux qui sont convaincus des vertus du marché.
Enfin, je me réjouis en tout cas de voir renaître l'idée d'entreprise, de profit, de marché, enfin à la main quand on parle avec des accents qui me bouleversent. Enfin.
Oui. Ah bon, donc vous trouvez ça, c'est bon ça?
C'est excellent.
Et ça n'existait pas de votre temps?
Ben, ça existait, le marché a toujours existé.
Mais je veux dire...
Mais il valait mieux pas s'en vanter.
Ah, il valait mieux pas s'en vanter. Maintenant, on peut s'en vanter. Ben... Oui.
Et voilà pour le petit extrait des nouveaux chiens de garde. Alors on va étayer un petit peu tout ça, parce que malheureusement, comme à chaque fois pour ce genre de documentaire, de morceaux de documentaire, ce qui vous manque c'est le visu, puisque là vous avez juste l'aspect audio. Alors on va un petit peu resituer et expliciter ce qui est dit dans ce morceau. On parle de certaines personnalités, des experts. Alors par exemple, il est cité un moment Élie Cohen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit gars et qui a notamment écrit le programme économique du Parti Socialiste pendant la campagne de 2012 là. Donc il est présenté trois quarts du temps quand il est sur les plateaux télé comme économiste au CNRS, mais il est en même temps administrateur chez Orange, dans le groupe Les Pages Jaunes et le groupe Steria. Entreprise, c'est une entreprise de conseil et de communication en numérique. Donc voilà, il a bien les mains dans le truc. Et je ne vais pas tout vous citer non plus, hein, parce qu'ils ont, il y en a certains d'entre eux, ils ont vraiment les mains dans plein d'entreprises, ils sont administrateurs de partout, ils ont des parts de partout, donc on y passerait la nuit. Il y a aussi Christian de Boissieu, oui, à un moment on parle de Christian dans le truc, mais son nom de famille, je ne sais plus s'il est cité. Il est présenté, lui, comme professeur d'économie à Paris, donc toujours sous son titre universitaire, mais il est aussi conseiller économique au Crédit Agricole, à HDF, Ernst & Young, membre du conseil scientifique de l'autorité des marchés financiers, hein, donc voilà, vous avez compris. Président de la commission de contrôle des activités de contrôle de Monaco. En gros, c'est lui qui vérifie s'il n'y a pas de fraude à Monaco. Ça, c'est une sacrée blague. Jean-Hervé Lorenzi aussi, qui est un autre personnage qui revient souvent. Il est présenté, lui, comme président du Cercle des économistes, mais il est aussi président du conseil de surveillance à Edmond Rothschild. C'est une banque. Private Equity Partners, à Groupama, tout le monde connaît, AXA, administrateur aussi à la BNP, enfin bref. Pour toutes ces personnalités, c'est comme ça, ils ont les mains complètement dans le truc. Ils sont dans la finance jusqu'au cou, si on on peut s'exprimer comme ça. Et encore, je vous fais fi des Alain Minc et Jacques Attali, qui eux, là, sont des stars du genre. Ils ont carrément des sociétés de microcrédit ou des trucs comme ça. C'est totalement hallucinant. Passer un temps, Alain Minc avait carrément une émission, je sais plus sur quelle chaîne c'était. Il avait une émission qui s'appelait Un instant avec Alain Minc ou quelque chose comme ça, où il invitait tous ses copains qui sont économistes comme lui, là, et il menait ce qu'ils appelaient des débats. Alors c'était très marrant parce qu'ils étaient trois autour de la table à penser tous exactement la même chose, donc en fin de compte c'était même plus des débats, c'était ils discutaient entre potes et puis ils se caressaient dans le sens du poil. C'était génial, ils étaient tous d'accord sur tout. Ça, si c'est du débat, ben la démocratie elle est vraiment mal en point. Alors voilà, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur la situation dans laquelle sont les médias modernes. Et puis ben pour ce soir, on va en rester là. De toute façon, on a largement dépassé l'heure. Il y aura pas de billet d'humeur, mais en ce moment, je suis désolé, mais il y a vraiment trop d'infos à traiter par rapport aux médias. J'avais beaucoup de documents audio pour illustrer ce soir. Donc forcément, c'était un peu compliqué de d'écrire un billet et de pouvoir le caler dans l'heure, et puis j'avais pas énormément le temps. La semaine dernière, je m'étais donné un peu de mal pour le faire, et faire des petits documents audio pour les illustrer, ça prend pas mal de temps. Alors voilà, sinon pour les petites infos habituelles, donc je vous rappelle qu'il y a une boîte mail, les yeux grands ouverts @laposte.net. Donc comme je le dis à chaque fois, c'est les yeux grands au pluriel avec un S, donc et ouverts avec un S. Si vous voulez faire parvenir des petits mots, je sais pas, si vous avez de l'inspi pour certains sujets, si vous voulez donner votre avis sur n'importe quoi, si vous voulez carrément demander qu'on passe certains morceaux de musique, parce que c'est vrai qu'en ce moment je passe pas énormément de musique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les médias. Voilà, s'il y a n'importe quoi qui vous vient à l'idée. Il y a également une page Facebook qui s'appelle également Les Yeux Grands Ouverts, avec un S de partout de la même manière, donc si vous voulez suivre un peu le fil de l'actu de l'émission. Et puis voilà pour ce soir, ce sera déjà pas mal. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Et bien qu'on va se retrouver la semaine prochaine encore, toujours de 23h à minuit sur Radio Canus 102.2 FM. Alors la semaine prochaine, on continuera à traiter de ce sujet-là parce qu'il y a énormément de choses à dire. Alors la semaine prochaine, on abordera ce sujet par un côté un petit peu plus bourdieusien, si je puis m'exprimer assez. On va dire une analyse un peu plus sociologique, de comprendre comment fonctionnent les journalistes. Notamment, on va illustrer tout ça par une interview de Noam Chomsky qui va expliquer. Enfin, c'est pas moi qui l'ai mené, l'interview de Noam Chomsky, malheureusement. J'aurais bien aimé le rencontrer, mais c'est pas possible. C'est Boston, c'est un peu loin. Et donc, c'est Daniel Mermet qui fait une petite interview et lui demande comment lui pense que les médias se censurent. Parce que cette censure, elle est pernicieuse, elle est tacite, elle est implicite, on s'en rend pas forcément compte, mais elle est là, donc il l'illustre un peu. Et puis, il y aura encore certainement plein d'autres documents audio, parce que j'en ai encore plein sous le pied et que c'est un peu difficile de choisir. Je pense que j'essaierai aussi d'aborder l'aspect de l'influence médiatique, notamment concernant l'insécurité. Quand on parle d'insécurité à longueur de journaux et qu'après le FN fait 20%, comment peut-on oser dire que les médias n'ont pas eu de l'influence sur les gens? Et puis voilà. Et ben, ce sera à peu près ce qui se passera la semaine prochaine dans l'émission. Et puis j'essaierai de faire un petit billet d'humeur si cela est possible. Alors je vous souhaite tous une excellente soirée ou même une excellente nuit, parce que là il est un peu tard. Et ben voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Canus 102.2 FM dans les yeux grands ouverts. Ciao à tout le monde, bonne soirée, bonne nuit et tout ce qu'il faut. Salut, salut.